Eh bien, il ne peut pas y avoir de raison pratique de croire en ce qui n'est pas vrai. Ou, du moins, je considère cela comme étant tout à fait impossible. Soit une chose est vraie, soit elle ne l'est pas. Si elle est vraie, alors on est bien obligé d'y croire. Sinon, on ne devrait pas. Et dans le cas où l'on serait incapable de savoir si elle est vraie ou fausse, il faut suspendre son jugement. Mais on ne peut pas, et cela me semble être d'une profonde malhonnêteté, une profonde trahison de l'intégrité intellectuelle, que de croire en quelque chose parce que l'on trouve cela utile, et non parce qu'on la pense être vraie.
Soit une chose est vraie, soit elle ne l'est pas. Si elle est vraie, alors on est obligé d'y croire, et sinon, on n'y croit pas. C'est aussi simple que ça avec le philosophe mathématicien Bertrand Russell, en 1959, interrogé sur la BBC. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, peut-on réanimer la vérité? On en parle en partenariat avec le nouveau magazine littéraire et son directeur de la rédaction, Nicolas Domenac. Bonjour.
Bonjour.
Pour un numéro de novembre consacré aux menteurs, comment les populistes manipulent les idées et l'opinion? Ils seront présents avec nous durant cette demi-heure, comme dans vos colonnes, Nicolas Domenac. Et avec notre invité, la philosophe Myriam Revaud d'Allonne. Après la crise sans fin, essai sur l'expérience moderne du temps en 2012 et le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique en 2016, la philosophe publie aujourd'hui et toujours au seuil la faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun. Un essai dans lequel elle décrit l'émergence de la notion de post-vérité qu'elle comprend comme un brouillage essentiel de la distinction entre vrai et faux et où elle analyse l'effet délétère de cette post-vérité sur nos démocraties. Pour la philosophe aujourd'hui, la politique n'est pas une affaire de vérité, mais de jugement partagé. Bonjour Myriam Revaud-Allonne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les politiques ont-ils un problème avec la vérité?
Si l'on en croit l'histoire des relations entre la politique et la vérité, oui. Enfin, en tout cas, à suivre la tradition philosophique. La politique et la vérité n'ont jamais fait très bon ménage, et ceci, au fond, depuis cet événement inaugural qu'a été la mort de Socrate, qui était le philosophe épris de vérité, et qui a été mis à mort par la cité démocratique. En tout cas, c'est la version qu'en donne Platon, qui est très sujette à, à discussion, mais enfin, qui, d'une certaine façon, cette interprétation s'est imposée. Hein, et elle s'est imposée à travers divers avatars, divers épisodes. Elle s'est imposée avec des variantes dans la modernité, par exemple à travers l'expression de machiavélisme, qui n'a strictement rien à voir avec la pensée de Machiavel, qui est un très très grand penseur politique. Et le machiavélisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, ou que l'exercice de la politique, c'est l'art du mensonge, l'art de la manipulation, l'art de, tromper les gens, et que donc on peut même aller plus loin. C'est le machiavélisme induit l'idée que la politique, c'est le mal absolu, que c'est l'essence du mal, et que donc, plus que le mensonge. Hein, et que donc, alors, ce qui entraîne aussi un conflit entre la morale et la politique, qui est, d'une certaine façon, un corollaire de ce conflit entre la politique et la vérité. Et donc, c'est une idée qui est, installée jusqu'à maintenant, sans d'ailleurs que l'on s'interroge sur les modalités de la vérité ou les modalités du vrai, sans que l'on se demande, parce que j'écoutais le texte de Russell, et ce qui m'a beaucoup frappé dans l'intervention de Russell, c'est que Russell lie la vérité au jugement, à la question du jugement. Ce dont on ne parle jamais quand on installe cette opposition binaire entre vérité et politique. Alors peut-être qu'il faudrait, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, réorienter l'analyse de ce côté-là, en ce qui concerne, le régime de vérité de la politique.
Voilà, jugement, interprétation, opinion. On va retravailler cette notion de vérité aujourd'hui, Nicolas Domenac, de la philosophie grecque à maintenant, d'Aristote, qui soulignait déjà l'ambivalence irréductible de la parole politique à vos menteurs, ceux qui font la une du nouveau magazine littéraire ce mois-ci. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce que cette combinaison ou cette déformation, ce travestissement de la vérité n'est pas inhérent à la parole politique?
Non, c'est inhérent à ce que j'ai peut-être toujours connu comme journaliste politique, c'est le conflit et la distance prise entre la vérité et le mensonge. Mais il y a quelque chose de radicalement neuf qu'exprime très bien Myriam Revaud-Allonne dans son livre, La faiblesse du vrai, c'est l'émergence, et ça nous bouscule, nous les journalistes tout particulièrement, mais toute la société, l'émergence de la post-vérité. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de vérité, c'est-à-dire toutes les vérités, toutes les opinions ont statut, légitimité maintenant de vérité, du coup, nous-mêmes, nous demandons à quoi nous servons, ou plutôt, nous devrions servir encore plus qu'avant, mais nous servons encore moins de fait.
On va ouvrir avec un des exemples que vous travaillez dans ce nouveau numéro. Vous avez un problème avec la vérité. Ça, c'est ce que disait le Premier ministre à Laurent Wauquiez fin septembre. Tiens, Laurent Wauquiez.
D'abord, bienvenue à tous. Je vais un peu vous amener dans les coulisses. Tout n'y est pas sympathique. Ça risque de ne pas être très politiquement correct. Et la moindre interface qui sort par le moindre élève, là pour le coup ça se passera très mal. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dis reste entre nous. Donc pas de tweet, pas de post sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique.
Voilà, on se souvient de Laurent Wauquiez devant des étudiants à Lyon, enregistré à son insu, leur parlant, disant qu'il allait tenir un discours de vérité loin du bullshit médiatique, de ce bullshit qu'on tient sur les plateaux télévision. Nicolas Domenac, le politiquement correct, le storytelling, est-ce que c'est toujours un mensonge? Est-ce à croire, si on en croit Laurent Wauquiez, que toute parole publique d'un homme politique est mensonge et que c'est quelque chose qui est presque assumé, accepté, c'est comme ça?
En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que tous ceux qui ont pris le pouvoir récemment dans les grandes démocraties sont des bullshitters, pour reprendre l'expression de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire des gens pour qui, au fond, la vérité n'existe plus. Seuls comptent les contre-vérités les fake news qu'eux-mêmes inventent et font passer pour des vérités. C'est un moyen de conquête du pouvoir et d'exercice du pouvoir. Et donc ça, c'est à prendre en considération. Alors, ça ne veut pas dire que tous sont équivalents, mais en tout cas que vous pouvez prendre aussi bien Trump que Poutine, que Boris Johnson, que l'Italien, ministre de l'Intérieur, que Marine Le Pen ou que Laurent Wauquiez qu'on évoquait tout à l'heure, qui en font au fond un système de déstabilisation d'abord de leurs adversaires et de toute position de savoir, de toute position de pouvoir contraire à la leur.
Myriam Revaud-Allonne.
Oui, alors je crois qu'il y a là un phénomène que d'une certaine façon on pourrait rattacher au fond à des manipulations de type traditionnel, bon, le mensonge, l'établissement, le fait de dire n'importe quoi. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose, parce que à quel type de vérité porte-t-on atteinte quand on parle maintenant de post-vérité? C'est pas tellement le problème de la vérité rationnelle ou de la vérité scientifique, sauf avec Trump quand il s'en prend aux climatologues. Ce qui est remis en cause, c'est ce qu'on appelle la vérité de fait, c'est-à-dire les faits eux-mêmes. Et ce n'est pas la même chose qu'une vérité mathématique ou une vérité scientifique ou rationnelle ou une vérité métaphysique. Le fait, c'est ce qui arrive. Bon, c'est ce qui arrive, ce qui aurait pu ne pas arriver parce qu'on est dans le domaine de la contingence, mais c'est le fait tel qu'il est arrivé. Or, ce qui est en train de se passer, c'est une espèce de déconnexion, et ça c'est le propre des régimes démocratiques. C'est une espèce de déconnexion, ou en tout cas c'est ce qui est, ce qui s'enracine dans une certaine fragilité du régime démocratique. C'est la déconnexion entre le fait d'émettre des opinions et le fait que ces opinions soient étayées sur des faits. C'est-à-dire qu'une opinion, le régime démocratique, c'est le régime de la pluralité des opinions. C'est le régime du débat, c'est le régime de l'exercice partagé du jugement, et donc, au fond, de la contradiction et du conflit. Mais on ne peut discuter de manière valable que si les opinions que l'on avance sont étayées sur des faits. Hein, c'est-à-dire qu'une opinion, et Hannah Arendt le dit de façon extrêmement claire, une opinion n'est légitime que si elle s'appuie sur des faits. Or, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a une sorte de perversion de cette pluralité de l'échange basé sur des faits vers un relativisme généralisé qui consiste à dire « Ah ben c'est mon opinion, moi je pense que » et peu importe que cette opinion soit basée sur des faits. Et ça ne concerne pas simplement l'exercice du pouvoir, ça concerne aussi le débat d'ailleurs qui n'est plus un débat, parce que dans ces conditions le débat n'est plus possible, ça concerne l'expression générale des opinions. Et par exemple, dans mon livre, j'ai relevé que le négationnisme, d'une certaine façon, avait été un cas d'école.
Oui, là, vous prenez le cas le plus extrême.
C'est le cas le plus extrême, parce que c'est là où on a vu, pour la première fois, dans un système démocratique, au fond, la vérité de fait aboli ou nié par un propos sous les yeux même de ceux qui en avaient été les témoins.
Bon, on l'a vu sur des cas même plus récents,
oui.
Et notamment sur le débat économique, par exemple, qu'une seule parole n'a pu à un moment émerger, que le débat d'idées ou la confrontation n'a plus été possible entre les économistes orthodoxes et les hétérodoxes, qu'une parole était clairement majoritaire dans le débat, l'autre tellement minoritaire ou minorisé aussi, c'est-à-dire qu'on ne lui donnait même plus la légitimité ou la possibilité de s'exprimer.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une déconnexion entre la vérité de fait et l'opinion que l'on énonce, c'est là où est véritablement le problème de la post-vérité qui, au fond, c'est là où la vérité perd son caractère normatif. Et ça, ce qui ne veut pas dire que la vérité est absolue. C'est pas ça le problème, je l'ai dit. Il y a des vérités scientifiques, il y a des vérités rationnelles, il y a des vérités métaphysiques, il y a eu des vérités révélées en matière de religion. Mais le problème fondamental, c'est celui de la vérité de fait. Hein, c'est-à-dire, et donc à ce moment-là, on n'est même plus, au fond, dans le partage entre le vrai et le faux devient totalement inessentiel. Le menteur, il sait qu'il y a une vérité.
Alors juste, je voulais en revenir avec vous là-dessus, Myriam Revaud-Allon. Est-ce que c'était pas déjà le cas avant? Qu'est-ce qui différencie vraiment notre époque aux époques précédentes? Est-ce que la vérité ou le mensonge, l'un comme l'autre, ont vraiment muté, se sont vraiment transformés? Vous écrivez que la post-vérité dans les sociétés démocratiques ne fonctionne pas de la même manière que le mensonge dans les systèmes totalitaires. En quoi? En quoi la post-vérité est presque plus problématique pour vous aujourd'hui que le mensonge?
Alors il y a une différence fondamentale, parce qu'il y a des aspects qui pourraient ressembler. Par exemple, quand on parle de réalité alternative ou de faits alternatifs, on pourrait penser qu'il y a une certaine analogie avec ce qu'avait fabriqué ou avec ce que fabrique les systèmes totalitaires qui, au fond, ont un système idéologique extrêmement bien construit, extrêmement cohérent et qui recouvre la réalité par un système alternatif. Mais ce qui caractérise ces systèmes totalitaires, c'est précisément la prégnance d'une idéologie qui est tellement systématique, tellement bien organisée, que d'une certaine façon, l'expérience concrète vient se heurter à cette idéologie comme à un mur. Donc il y a une force de l'idéologie qui crée une réalité systématique. Dans la démocratie, le problème, ce n'est pas le même. Le problème, c'est précisément ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une tendance au relativisme des opinions. Puisque d'un côté, on a la cohérence extrême d'un système tellement bien organisé qu'il crée effectivement une réalité alternative, ce qu'on appelle le système idéologique. Et d'un autre côté, on a, au fond, une perversion ou un dérapage d'un principe qui est un principe fondamental, qui est le pluralisme, enfin, qui est la pluralité des opinions, et qui dérive vers un relativisme complètement déconnecté des faits. Alors, effectivement, dans les deux cas, on peut parler de faits alternatifs ou de réalités alternatives. Mais ce n'est pas le même mode, ce n'est pas le même processus, ce n'est pas le même mode de fabrication. Il n'y a pas dans la démocratie une idéologie de type totalisante comme il y en a eu dans les systèmes, au système soviétique ou dans avec le national-socialisme ou avec d'autres systèmes totalitaires.
Nicolas, si
je peux,
une
question. Oui, si je peux compléter, il me semble qu'il y a quand même deux phénomènes nouveaux. D'abord, les nouveaux moyens d'information, bien évidemment, sur Internet, qui font de la vitesse et aussi de l'émotion des données qui relativisent la véracité des informations, voire l'éclipse ou la balaye complètement. Deux, le discrédit de toutes les autorités, ce qui fait d'ailleurs les régimes autoritaires à l'arrivée. Autorités politiques, mais aussi scientifiques. Une des choses qui nous a frappé, nous, dans les enquêtes sur les menteurs populistes, c'est par exemple la récurrence dans tous les partis populistes, de la critique de la vaccination. Aussi bien au Brésil qu'en Italie, parce que au fond, et d'ailleurs j'ai retrouvé même chez Philippe Henriot, alors là c'est le député d'extrême droite qui en 1938 montait à la tribune de l'Assemblée nationale pour dénoncer la vaccination qui devenait obligatoire, mais sur la thématique qu'au fond, ce qui nous empêche, c'est une critique de la science, etc., mais aussi une critique de l'immigration, parce que pour être sain, eh bien notre corps social devait être expulsé tout ce qui était étranger. Et on retrouve au Brésil la même logique, c'est-à-dire qui nous renvoie au fond tous les experts au néant et au nom de quand même d'une idéologie malgré tout.
Oui, mais enfin d'une idéologie qui n'est pas aussi systématique que ce qu'elle pouvait être dans les systèmes totalitaires. Je pense que c'est une... Moi, je donnerais une définition un peu plus... Enfin, assez rigoureuse de l'idéologie. Je crois que là, il s'agit d'une... au fond de fabrication plus ou moins opportuniste liée au fond à la prise de pouvoir et à la conservation du pouvoir. Et vous avez tout à fait raison de dire que il y a ce phénomène de la diffusion virale des informations, ce qu'on appelle les fake news, qu'il est extrêmement difficile de contrer, ne serait-ce que par les fake news. Bon, on le voit très bien. Il y a une sorte de... Déjà, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est que je me souviens que Adorno et Horkheimer, au moment de la montée du nazisme, signalaient qu'il était inefficace, presque de contrer les mensonges de l'idéologie totalitaire par la rectification des informations. Et à ce moment-là, on rencontre effectivement cette question de l'émotion, ou je dirais cette question du désir, parce qu'on le voit très bien avec les algorithmes, le fait de répandre sur les réseaux sociaux ou sur Internet une masse d'informations non vérifiées n'incite pas du tout à l'esprit critique, mais bien au contraire, favorise les informations que les gens ont déjà envie d'entendre. Donc ça les renforce dans leur présupposition, pas simplement intellectuelle, mais affective, désirante.
13h15 sur France Culture, en compagnie de la philosophe Myriam Revaud-Allonne à l'occasion de la parution de son nouvel essai « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde » qui paraît au seuil, et de Nicolas Doménac, le directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire qui consacre son numéro de novembre aux menteurs ou comment les populistes manipulent les idées et l'opinion.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Dans La faiblesse du vrai, Myriam Revaud-Allonne, vous montrez comment nous sommes entrés dans l'ère des postes, post-vérité, mais aussi post-démocratie, post-modernité, etc. Est-ce qu'on a vraiment changé d'époque, comme le sous-entend l'utilisation massive et répétée de ce préfixe? Qu'est-ce qui nous arrive aussi et comment le penser? En quoi notamment cette question de la post-vérité questionne la possibilité même d'un monde commun? Vous montrez comment la post-vérité fragilise aujourd'hui nos démocraties. On a parlé des quelques figures du populisme ou voix d'aujourd'hui. Ce nouveau rapport à la vérité, pour vous, Myriam Revaud-Allonne, est-ce que c'est une cause ou un symptôme de la montée des populistes?
Alors, je pense que c'est un symptôme, mais c'est plus qu'un symptôme. D'abord, parce que vous avez raison d'insister sur le fait que l'usage proliférant, je dirais, du préfixe post est quand même le signe de quelque chose. Ça a commencé avec la postmodernité. Ça a continué avec la post-politique, la post-démocratie, la post-vérité. C'est-à-dire que cet usage, comment dire, au fond, multiplié des postes, ne désigne pas simplement que quelque chose vient après. Hein, c'est pas simplement comme post-natal ou post... ça désigne pas simplement une succession dans le temps, mais ça veut signifier une rupture. Ça voudrait signifier une rupture. Et ça répond à la fois à un constat objectif, par exemple que nous ne sommes plus, en ce qui concerne la postmodernité, parce que c'est peut-être de là que tout est venu, nous ne sommes plus à l'âge de la modernité triomphante. La politique n'a plus la valeur que nous pouvions lui accorder. C'est le ressenti des gens. On n'a plus la valeur que nous pouvions lui accorder quand nous croyons encore au progrès, ou quand les gens croyaient encore dans des valeurs émancipatoires qui seraient produites par la politique. La post-démocratie, ça vient du fait que la démocratie ne remplit pas ses promesses. Et là, on en arrive, je crois, à un espèce de point culminant. Ça témoigne certainement du fait que nous sommes à un seuil d'époque, ce qu'on pourrait appeler un seuil d'époque, mais que nous ne savons pas, nous sommes entre ne plus et pas encore. J'aime bien cette expression de Hannah Arendt, nous sommes entre le ne plus et le pas encore, dans une espèce de brèche, dans une espèce de gap. Et cet usage massif des postes est aussi le signe d'un désarroi. Alors, c'est vrai que le populisme est aussi le signe de ce désarroi. Et les populistes, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, s'en prenant aux élites, ils s'en prennent à ceux qui sont supposés savoir. Parce que c'est ça, l'élite. C'est pas simplement ceux qui gouvernent ou ceux qui sont au-dessus, mais les élites, ce sont ceux qui disposent du savoir et donc de la vérité. Donc il y a certainement un rapport entre la montée des populismes et cette émergence de la post-vérité, cette espèce d'indifférenciation par rapport à ce que serait un savoir, mais j'insiste encore une fois, un savoir critique.
Alors, et nous, en France, sous quel régime de vérité vivons-nous? Est-ce que le nuage de la post-vérité s'est arrêté à nos frontières, ou est-ce qu'il est aussi entré dans l'hexagone? Notre président, à nous, Emmanuel Macron, s'excuserait presque de dire la vérité.
Je voulais ce soir m'adresser à vous pour vous donner le sens profond de l'action que j'entends poursuivre pour notre pays, alors que nous venons de recomposer le gouvernement. Ces derniers mois ont en effet pu rendre moins perceptible ce sens. D'abord, parce que parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques.
Nicolas Domenac, le oui, parler
c'est...
vrai.
Le parler vrai. Alors, c'est amusant d'abord parce que, au fond, il s'attribue, il explique les mauvais sondages à son égard, à son encontre, par les qualités, au fond. Alors que c'est pas des défauts qui produisent une mauvaise cote d'opinion, sans doute. Et le parler vrai, en l'occurrence, le parler vrai est une façon très ambiguë, de parler. Parce que c'est quoi parler vrai, en l'occurrence? Ce qu'il dit, est-ce la vérité ou bien est-ce que c'est un parler dru? Un parler inconvenant, peut-être, parce que il faut prendre des précautions quand on parle aux gens, quand on parle entre humains. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis, est-ce vraiment la vérité ce qu'il profère ? C'est une façon de s'attribuer un monopole du parler vrai, qui est très différent d'ailleurs du parler vrai de Michel Rocard, parce que ça fait allusion à ça, ou de Mendès France, même si on peut trouver une résonance, une préoccupation commune. Mais enfin, c'est s'attribuer un monopole de la véracité, alors même qu'en tant qu'émetteur, il est disqualifié. Donc, on est en plein dans nos contradictions et auxquelles les journalistes, nous n'échappons pas, puisque nous sommes nous-mêmes suspects pour lui et pour beaucoup de nous, de ne plus respecter les codes de la vérité.
Et on est peut-être en plein dans nos contradictions, et en même temps, là où il dit vrai, c'est qui est arbitre du vrai, voilà. Du faux? Qui est là pour en juger?
C'est très intéressant parce que c'est un symptôme, cette utilisation du parler vrai. Et je crois que vous avez raison quand vous soulignez la différence entre Macron et Rocard ou Mendès France, c'est que quand Mendès France, Rocard comment dire, au fond, utilisé cette expression de parler vrai, il ne pensait pas ou il ne l'affichait pas comme la détention de la vérité, mais comme la recherche d'une vérité qu'ils ont toujours présentée, au fond, surtout Mendès France, comme quelque chose d'extrêmement fragile, comme quelque chose qui était à conquérir et non pas quelque chose que l'on détenait. Il y avait une conscience très précise chez eux de quelque chose qui est absolument fondamental, c'est que le langage politique est fondamentalement un langage ambigu, qu'il est un langage ambivalent. Je prends un exemple. Oui. Quand on discute dans le débat public de notions fondamentales comme la sécurité, la croissance, la liberté, la justice, l'égalité. Bien. Ce sont des notions qui ne sont pas des notions univoques. Ce sont des notions sur lesquelles on peut discuter indéfiniment et sur lesquelles on ne cesse, dont on ne cesse de donner des versions contradictoires. Donc l'idée, c'est que ici, s'il y a un parler vrai de la politique, ce n'est pas celui de celui qui l'énonce, le gouvernant, comme quelque chose qu'il détient, mais c'est un parler vrai tâtonnant, qui est celui du régime de vérité même de la politique. C'est-à-dire que nous pouvons débattre indéfiniment de ces notions fondamentales, nous n'arriverons jamais à une définition univoque et définitive. Et c'est ça la force. Alors, on peut dire que c'est la faiblesse du vrai dans la démocratie, mais c'est la force de la démocratie que d'assumer ce type de faiblesse du vrai qui n'a rien à voir avec la post-vérité. Et c'est ça qui me paraît fondamental.
On a beaucoup tendance à pointer aujourd'hui les autres du doigt, à pointer Vladimir Poutine, à pointer Donald Trump, à pointer Matteo Salvini, à pointer Recep Erdogan aussi en Turquie. Donc on peut aussi se poser la question de savoir si cette ère de la post-vérité est quand même mondiale. C'est-à-dire, est-ce que c'est un élan, un mouvement qui est en train de gagner la plupart des pays, des régimes politiques et de parole qu'on peut avoir aujourd'hui? Et au-delà de ça, voir avec vous, puisqu'il nous reste quelques minutes, Mireille Delmas-Marty, comment tenter d'y faire front et de rétablir une certaine notion de la vérité. Pour la seconde fois, la semaine dernière, le Sénat a rejeté la proposition de loi contre les fake news qui a été jugée inefficace. Écoutez à ce sujet Jean-Luc Mélenchon, il était à l'Assemblée nationale.
Bon, au risque de me répéter, qu'il faille distinguer une information vraie d'une fausse, c'est une affaire entendue. Dans le domaine des réalités matérielles, la dispute à ce sujet s'appelle la science. Dans le domaine des choses auxquelles on peut croire ou ne pas croire, cela s'appelle la philosophie. Et dans le domaine de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire dans la société, cela s'appelle la politique. Toute vérité ne jaillira jamais que d'une dispute. C'est la dispute qui fait apparaître les possibles du réel, et à la fin, il faut bien que l'être humain tranche. Et vous allez voir que si nous vous suivons dans l'idée que la loi puisse fixer la vérité ou qu'un organe en soit capable, il va falloir dire tout de suite à Madame Le Grip, qui s'était exprimée tout à l'heure, qu'elle court un très grand danger. Car elle a osé nous dire que l'enfer était pavé de bonnes intentions. Ce qui, si j'en crois l'article 1, est une allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables, de nature à la rendre vraisemblable, et cela constitue donc une fausse information. Trois fausses informations. Premièrement, que l'enfer existe. Deuxièmement, qu'il est pavé. Et troisièmement, que vous ayez de bonnes intentions. Eh bien voilà à quoi aboutit la fatuité qui consiste à croire qu'une machine va dire la vérité quand les êtres humains n'y sont pas parvenus.
Bon, alors oui, les êtres humains, j'en suis un bon exemple, ne disent pas toujours la vérité. Pardon, je vous ai appelé Mireille Delmas-Marty, on la salue. Myriam Revault d'Allonne est donc notre invitée jusqu'à 13h30 à l'occasion de l'apparition de la faiblesse du vrai. Comment distinguer le vrai du faux, ce qu'évoque dans l'hémicycle Jean-Luc Mélenchon, sont des bonnes questions aussi. Qui est l'arbitre légitime?
Absolument.
Et pourquoi la parole des médias serait-elle aussi plus légitime que la parole politique? Frédéric Lordon, l'économiste philosophe, avait signé un papier assez juste à ce sujet. Macron, décodeur en chef, il s'amusait presque dans cet article qui posait sérieusement la question de la crédibilité de l'exécutif comme régulateur en chef de l'information. Vérité contre la liberté d'information. À qui confie-t-on le soin d'être l'arbitre?
Moi, je pense que dans une démocratie, si difficile que ce soit, c'est au peuple que l'on confie d'être, que l'on doit confier le fait d'être l'arbitre de la décision, puisque la démocratie, c'est quand même la souveraineté du peuple. Mais non pas le peuple entendu à la manière des populistes comme une entité substantielle, mais pour une fois, j'aime bien l'expression de Mélenchon qui dit c'est la dispute, la disputatio, le conflit, le débat qui fait apparaître les possibles du réel. Et là, ce qu'il y a de très bien dans cette phrase de Mélenchon, c'est qu'il dit le problème, ou moi je l'entends comme ça, c'est ma position, il suffit pas de rectifier les fake news avec des check news. Ça c'est inopérant, ça suffit pas. C'est certainement nécessaire, mais non suffisant. Et faire apparaître les possibles du réel, ce que veut dire Mélenchon, c'est au fond proposer un projet de société. C'est ça qu'il veut dire également, c'est-à-dire au fond faire appel à de l'imaginaire, les possibles du réel. C'est faire appel à de l'imaginaire et opposer à une fiction improductive comme la post-vérité, une défiction productive sur lesquelles on débat. C'est-à-dire en fait on débat aussi sur des projets de société. On débat simplement... on ne débat pas simplement sur l'exactitude des chiffres concernant le PIB ou la croissance.
Nicolas Domenac.
Oui, ce qui est très juste, ce propos de Jean-Luc Mélenchon, toute vérité ne jaillira jamais que dans la dispute, et c'est totalement contradictoire avec son autre propos.
Absolument.
Lorsqu'il affirmait « ma personne est sacrée,
oui,
et donc sa parole intouchable ». Donc au moins, il a eu un moment d'extrême lucidité précédemment.
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit « pour une fois ». J'ai dit « pour une fois, il y a quelque chose, c'est une belle phrase ».
Et dans la faiblesse du vrai, Myriam Revaud-Allonne, vous nous rappelez aussi l'importance et le besoin d'imagination que nous pouvons avoir aujourd'hui. Vous distinguez bien la fiction qui détruit de cette fiction qui enrichit, et j'appelle où j'invite les auditeurs à vous lire. C'est très, très intéressant. Vous revenez aussi sur l'importance et le pouvoir des utopies, des dystopies. Orwell, 1984, à l'appui sur ce que la fiction fait aussi à la réalité et comment l'interpréter. La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun, vient de paraître au seuil. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Allonne, d'avoir été avec nous.
Merci à vous,
Nicolas Domenac. Les menteurs. Voici pour la une du nouveau numéro du nouveau magazine littéraire. Merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Henri Leblanc et Jean-Christophe Brianchon pour La Grande Table Culture, à Mayane Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées, avec l'aide toujours très précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig.